Bonne matinée. Il est 10h. Le point sur l'actualité nationale et internationale.
La rétrospective de l'actualité de la semaine. Alors évidemment, on ne va pas vous parler des élections législatives, hein, puisqu'aujourd'hui c'est jour de vote, même si cette actualité a fait évidemment la une cette semaine. Alors peut-être moins la une toutefois que les attentats. Et oui, encore les attentats. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Manuel Valls, hein, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. Ça a frappé doublement ces derniers jours. Ça a frappé évidemment à Londres et ça a frappé de façon artisanale à Notre-Dame de Paris avec cette agression à coups de marteau sur des policiers. Alors réaction, mais c'était prévu, c'était la mesure phare d'Emmanuel Macron contre le terrorisme. Le Centre National du Contre-Terrorisme a été créé à l'Elysée, ça y est, c'est fait depuis cette semaine, sous l'autorité directe du chef de l'État. Cette task force réunissant une vingtaine d'analystes issus des ministères de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice, qui assurera une mission de pilotage stratégique afin que les services antiterroristes coopèrent mieux. C'est l'idée, centraliser un commandement efficace pour mieux lutter contre le terrorisme en France. Cellule qui sera appelée à fonctionner 24 heures sur 24 et ne tolérant plus aucun angle mort, puisque c'est dans ces angles morts, dans ces silence, dans ces incertitudes, que les terroristes finissent toujours par réussir à mener leur coup. D'autres mesures de la campagne d'Emmanuel Macron ont commencé à être dévoilées cette semaine. Par exemple, l'assurance chômage universelle, ça a été annoncé, précisé par rapport à ce qui avait été dit durant la campagne électorale. Il y aura à partir de l'été 2018 le chômage pour tous. Alors pour tous les travailleurs, même s'ils ne sont pas salariés, les artisans, les commerçants, les indépendants, les entrepreneurs, les professions libérales, les agriculteurs, jusqu'à présent ils n'avaient pas le droit au chômage si leur activité périclitait et s'arrêtait. Et puis le droit aussi au chômage aux salariés qui démissionnent. Ils auront le droit au chômage comme s'ils étaient licenciés. Un droit qui sera utilisable une fois tous les 5 ans pour éviter les abus. Combien coûtera cette mesure? Environ 5 milliards d'euros selon un scénario. Pour équilibrer le budget, Emmanuel Macron fait le pari d'une forte baisse du chômage. Autre mesure annoncée cette semaine par le gouvernement, des révisions. Par exemple, le prélèvement à la source, eh bien ça y est, c'est fait, c'est décidé, c'est reporté au 1er janvier 2019, mais ce n'est pas annulé. Ça devait entrer en vigueur au 1er janvier 2018. Le Premier ministre Édouard Philippe défend que c'est une bonne réforme. Elle permet d'ajuster en temps réel la perception de l'impôt à l'évolution de ses revenus. Et puis, le gouvernement se donne le droit de revoir le tiers payant généralisé chez les médecins. Mesure qui faisait d'ailleurs grandement débat auprès des professions libérales médicales. On a aussi vu revenir cette semaine le redoublement. Il était en voie de disparition. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré qu'il y a quelque chose d'absurde à laisser passer de classe en classe des élèves accumulant des retards. Le redoublement doit rester possible quand c'est dans l'intérêt de l'élève, dit-il, et dans des cas qui doivent rester rares. Ce redoublement reviendrait à la rentrée, dès la rentrée 2017. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite un excellent dimanche et rendez-vous ce soir à 20h pour les résultats du premier tour de l'élection législative. Deuxième tour dimanche prochain.
La météo de votre région sur RVE.
RVE 103.7, avant de retrouver le sport, voici un point météo pour cette journée de dimanche. Alternance de passages nuageux, de belles éclaircies, avec des températures qui sont actuellement de 16 degrés. On atteindra dans l'après-midi des températures presque orageuses de 29 à 30 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh oui, bonjour à tous et à tous. En plus, il fait très beau et l'actu est particulièrement folle et abondante. Donc, on va la commenter dans ce Tribune Sport qui suit le dernier Tribune Foot qu'on vous avait présenté la semaine dernière. Alors, on va accueillir une partie de ceux qui ont laissé le ballon rond pendant 15 jours pour la petite balle jaune. On va commencer avec notre ami Olivier. Ça va, Olivier?
Oui, bonjour.
Ouais, 15 jours passés sur Roland-Garros. On va faire un petit peu le bilan. Grosse déception une nouvelle fois pour les Français.
Ouais, effectivement. Un Français en huitième, un petit peu plus joyeux du côté des Françaises avec deux Françaises en quart de finale. Mais c'est vrai que c'est un bilan assez pauvre, malheureusement.
Ouais, on va bien en parler parce que Arnaud, qu'on salue aussi, nous a préparé des stats. Vous allez voir, elles sont édifiantes. Ça va, Arnaud?
Ça va très bien, vous?
Ouais, cette quinzaine sur Roland-Garros.
Bah, ouais. À l'image du tennis français, voilà. Donc c'est triste et heureusement que Les derniers jours remontent le moral parce que force est de constater que, à titre personnel, quand les Français jouaient, ça ne m'intéressait pas. Et depuis qu'ils ne sont plus là, on voit du tennis.
Eh ben, on va en discuter. Il n'a pas raté une seule balle de cette quinzaine de Roland-Garros. C'est notre éducateur tennis et rugby, Christian Rieux. Salut Christian, ça va?
Oui, ouais. Bonjour.
Pareil, grosse déception, ça n'a pas été un gros Roland-Garros 2017 pour les Françaises et les Français.
Mais oui, les résultats en attestent. Hein. Bon, et encore, si on regarde les juniors, on est encore loin du compte. Bon, c'est tout le système qui est à revoir. Ce n'est pas uniquement les joueurs qui sont en cause, c'est tout un système de fonctionnement.
On va en discuter. Et puis, il a vécu sa première quinzaine de Roland-Garros. C'est notre ami Pierre. Salut Pierre, ça va?
Salut Philippe, oui, ouais, très bien.
Pleine forme?
Pleine forme.
Ça t'a plu Roland-Garros?
C'est un très beau lieu de vie. Moi, j'ai adoré y aller et je peux vous dire que je vais y retourner chaque année, je pense, parce que c'est un bel endroit, très bel endroit.
Bah nous, on y a été aussi, on a ramené quelques petites interviews, donc ça, on s'y intéressera dans la deuxième partie de cette émission. On va parler de ballon rond et de ballon ovale aussi dans quelques minutes. Je voulais simplement d'abord féliciter les garçons de Rambouillet pour le basket, hein, qui ont remporté la Coupe des Yvelines. C'était dimanche dernier face à Sartrouville, 79 à 78. Donc, c'est l'exploit sportif de l'année sur Rambouillet. Donc, bravo à l'équipe Fagnon, notamment drivée par notre ami Francis Coche. Et puis, bonne chance aussi aux filles du volet, hein, de Rambouillet, qui vont elles-mêmes aussi jouer une finale de Coupe des Yvelines. Ça sera dans quelques jours face à Maison Lafitte. Et puis, à propos de volet, je vais passer le témoin à Victor, parce que Victor, il y a un beau tournoi de biche aujourd'hui. Volet opéré en Yvelines au Champ de Foire.
Alors oui, bonjour à tous déjà. En effet, aujourd'hui se tient le tournoi de beach annuel du club du Perret en Yvelines de volleyball. Donc j'y étais ce matin pour aider à installer les terrains, etc. Et il a fait un super temps, il y a une super ambiance, on a des beaux terrains. Bon, évidemment, il y a toujours quelques petites pierres qui sont dissimulées, mais c'est toujours agréable d'y jouer. Et passez-y parce qu'on a une bonne ambiance, on a un super staff aussi. Voilà, que demander de plus aujourd'hui avec le soleil?
Effectivement, il fait très beau et les premiers matchs vont commencer justement dans quelques secondes, hein, ça commence à 10h.
Oui, tout à fait.
Très bien, et puis on n'oubliera pas, tiens, Arnaud et Pierre, vous étiez aux manettes fin avril, les foulées sarnésiennes, un trail de 18 km 500, départ à 10h, donc ça vient tout juste de s'élancer. On attend plus de 400 concurrents donc au cours de cette 17e édition des foulées de Sarnay. On vous donnera les résultats la semaine prochaine. Et puis Olivier, c'est un peu plus loin qu'ici, c'est à Paris. Il y a un beau match cet après-midi de foot.
Ouais, une belle offre caritative. À Paris Post dans le 91, ouais. Il y a un tournoi caritatif des légendes avec les anciennes gloires du PSG.
Ouais, tiens, ça va rappeler des beaux noms, ouais.
Ouais, avec entre autres Laurent Fournier, Fabrice Pancrate, Oumar Dieng, Vincent Guérin, Jimmy Algerino. Ouais. Pour ne citer que c'est un match donc caritatif pour contre la recherche contre la sclérose en plaques.
Le match commence à 15h, c'est ça?
Non, dès 10h. C'est un tournoi.
10h ce matin?
Ouais, 10h, 18h.
Il y a beaucoup d'événements ce matin.
Il y a plusieurs équipes, c'est un tournoi vétéran. Ouais. Donc,
les foulées sarnésiennes et puis le match de foot au Paris. Donc 10h, vous voyez, ça vient tout juste de commencer.
Ouais, donc n'hésitez pas à y aller. Ouais. L'entrée est à 5€ et donc vous ferez une bonne action.
Voilà, et puis ça rappelle, c'est des noms quand même qui rappellent des belles choses hein, pour les habitués, notamment du Parc des Princes.
Surtout Fabrice Pancrate.
Moi, je voudrais encourager un ami à moi qui a la finale de la Coupe d'Essonne de la CDM ce matin à 11h30.
Eh ben c'est bien.
La SPI des Ulysses contre Corbreuse, c'est à Longjumeau, ça commence à 11h30. J'y vais dès la fin de l'émission, donc bon courage.
D'accord. À eux. Eh ben très bien, oui, il se passe plein de choses hein, ce dimanche 11 juin, comme je vous l'avais dit. Alors, avant de revenir sur le tennis, on va compléter le Tribune Foot de dimanche dernier, hein, qui avait donc laissé aussi une petite place au sport épique. Suède-France, battu donc l'équipe de France de Buzyn, un match que l'équipe de France n'aurait pas dû perdre. Hein. On s'acheminait vers un match nul, faute d'Hugo Lloris, grosse faute. Bon, ça n'élimine pas l'équipe de France, mais ça va lui rendre la tâche un peu plus compliquée.
Moi, je suis pas trop inquiet pour la suite.
Ça va
fait.
Se compliquer un peu plus la tâche.
Oui, mais on va recevoir du monde à domicile, oui. Des petites équipes. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre.
Pour reprendre une expression d'aujourd'hui, elle est en ballotage plutôt favorable.
Voilà. Moi, je fais confiance à Deschamps. Hugo Lloris fait peu d'erreurs. Malheureusement, c'est une erreur qui coûte cher cette fois-ci, mais oui. Moi, je lui en veux pas. J'en veux plutôt à l'équipe, le collectif en général. On a senti les joueurs fatigués, pas avec moins d'envie que d'habitude. Je pense que dans le futur, avec les matchs qui vont arriver, quand la saison aura bien commencé, ça va rentrer dans l'ordre.
Alors, c'est vrai que si l'équipe de France avait gagné, elle était tranquille, elle était pratiquement donc à Moscou, en Russie. S'il y a eu match nul, elle gardait son avance confortable. Là, donc, il y a un petit resserrement, donc ça va être un peu plus compliqué, mais enfin, ça devrait quand même le faire. Il n'y a pas une petite erreur quand même, Mbappé et puis Lemar qui rentrent à la 80e minute?
C'est, ils auraient pu rentrer plus tôt quand même, hein, c'est vrai. Voilà.
C'est parce le seul que... petit...
Oui. Deschamps, de toute façon, il est un peu contestable sur ses choix ces derniers temps, de ne pas faire jouer N'Golo Kanté quand même, ça se discute, parce que Moussa Sissoko, bon, il joue plus dans son club depuis quelques temps, et il est toujours titulaire. Il y a des choix comme ça qui se discutent, c'est vrai, parce qu'il est toujours sur la continuité de l'Euro, et il ne fait pas des ajustements. Mais moi, je suis confiant pour la suite, et Didier Deschamps, il va savoir s'adapter, et dans le futur, ça va passer.
Olivier qui a lâché Roland Garros le temps d'une journée pour Stockholm. Alors,
ouais, effectivement, la défaite des Bleus. Maman est en stade. Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, moi, j'ai le sentiment qu'on maîtrisait vraiment le match. Et,
oui, oui, machu, là, c'était une des choses.
Enfin, ouais, on s'est fait. Bon, malheureusement, Hugo Lloris fait la faute qui a des grosses conséquences derrière.
Alors, on va pas l'incriminer parce qu'il a du mal dormir.
Non, il nous a sauvés plus d'une fois, mais. Mais non, ce qui est rageant, c'est que j'ai eu le sentiment qu'on était largement au-dessus, qu'on a, pendant un temps, on a joué à la baballe, on s'est regardé un petit peu jouer, on doit tuer le match, quoi. On a la chance d'ouvrir le score. Déjà, bon, normalement.
On sait que c'est pas une équipe facile à jouer la
semaine. Non,
de tout temps, ça jamais été une équipe facile.
Ils ont joué avec leurs
moyens. Surtout avec une première mi-temps assez fermée, quand même.
Ouais, ils ont joué avec leurs moyens, mais bon, on les connaît, les Suédois, c'est costaud, c'est.
Jamais
facile. Ça lâche rien et tout, mais avec nos joueurs, avec l'expérience qu'on a, avec. Je pensais vraiment qu'on... Enfin, 1-0, on avait fait le plus dur d'ouvrir le score. Normalement, on doit tenir ce score au moins à la mi-temps. Et puis derrière...
Et puis au moins, ramener le match. Et puis oui. Refléter le match. Hein.
Tout à fait. Voilà. À un partout, il reste 5 minutes. Bon, pourquoi s'obstiner forcément à aller marquer le deuxième but? Fallait fermer derrière et... Mais bon, on peut refaire le match 10 fois. À la fin, on perd 2-1. Comme on disait, ballotage favorable, parce qu'on a un calendrier quand même. On va recevoir trois fois pour un match à l'extérieur. Avec les Suédois, sauf erreur de ma part, iront deux ou trois fois à l'extérieur.
Je crois que,
Bon, bah, faudra tout de suite mettre le bleu de chauve dès le 31 août et une victoire contre les Pays-Bas. Quoi.
Surtout Pays-Bas-France, il y aura des joueurs qui seront à peine, mais des deux côtés, hein, qui seront à peine compétitifs. Hein, ils auront peut-être deux, trois matchs dans les jambes. C'est une date quand même un peu particulière, 31 août. Hein.
31 août, mais bon, on n'a pas le choix, on le sait à l'avance. Faudra tout de suite être dedans et surtout maintenant. La question, il ne faut plus laisser de points en route, quoi. C'est surtout
ça.
Quoi.
Non. Pas contre les Bulgares, pas contre la Biélorussie.
Il faut faire 4 victoires.
L'équipe de France, c'est dommage, quoi.
C'est dommage. Après, moi, je pense plutôt à me projeter un peu plus loin. Et également, sur ces derniers mois, à mon avis, il ne faut pas se mentir, cette équipe de France est faible. On arrive en finale de l'Euro dans un Euro faible. On perd contre une équipe faible en finale. Les qualifications, le premier match contre la Bulgarie, on est mené. La Suède, on est mené. On fait match nul en Biélorussie. Le Luxembourg, on les bat 3-1, si je dis pas de bêtises, avec du mal. Là, on a pris une vraie leçon de football au mois de mars contre l'Espagne. On repère contre la Suède. Cette équipe de France qui, visiblement, se prétend pour gagner la Coupe du Monde, n'est pas prête, n'a pas le niveau pour le moment. Donc, va falloir changer des choses. Deschamps, qui est d'habitude, selon moi, un très bon entraîneur, un très bon coach et qui fait souvent les meilleurs choix. Comme le disait Pierre, n'y est pas en ce moment. Tactiquement, aller mettre Moussa Sissoko, aller mettre Payet.
Sissoko, c'était peut-être pour renforcer un peu plus le milieu de terrain, sachant que ça allait être une bataille tactique comme la première mi-temps. Quoi.
Tactiquement, il y a des joueurs bien meilleurs à mettre. Mm-hmm. Il a voulu mettre Blaise Matuidi qui n'a plus de niveau en ce moment, sachant qu'il y a N'Golo Kanté. Mm-hmm. Pogba et les Griezmann, ça me paraît légitime, mais ils sont un petit peu émoussés par la saison.
Ils sont cuits, Payet et Griezmann, ils sont cuits.
Écoutez, il a mis 76 minutes à faire rentrer deux joueurs, mais pour moi, deux joueurs qui auraient mérité d'être titulaires, Lemar et Mbappé, sont des joueurs qui sont bien au-dessus. Et de voir, par exemple, Sidibé et Benjamin Mendy, c'est des choix qui sont totalement légitimes. Et c'est à l'image de la saison de l'AS Monaco, ils sont largement au niveau. Et ça s'est vu à Stockholm vendredi soir. Et Benjamin Mendy a, selon moi, été le meilleur joueur sur le terrain, malgré l'erreur sur le but. Mais ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Et même offensivement, de voir que c'est un arrière-gauche qui en apporte le plus offensivement. C'est inquiétant, ouais.
Bon, il reste France-Angleterre, mardi, match, au moins
c'est un match
de
pour la
gala.
Pour,
au
match
moins
de gala.
Bien,
voilà.
Ouais, mais pour au moins bien finir la saison psychologiquement.
Faudrait essayer de finir sur une bonne note.
Ce serait bien, ouais.
Essayer
ouais.
de faire jouer des joueurs ouais. qui ne jouent pas trop, qui se montrent, et puis régaler un peu le public. Mais c'est vrai que le calendrier, c'est mal fait de faire trois matchs comme ça en fin de saison, ils n'en trouvent plus, les joueurs.
C'est le problème de toutes les années impaires.
Puis après, on parle aussi, du match le 31 août.
C'est pour tout le monde pareil. Hein.
Bien sûr. Mais il y a quelque chose à faire là-dessus.
Pierre,
y a quelque
chose à faire là-dessus. C'est pas normal de jouer trois matchs, mais de base, l'équipe de France devait jouer la Suède plus l'Angleterre.
Oui. C'est ce qui est Deschamps qui a voulu jouer le Paraguay.
Il avait raison, parce qu'il fallait garder les gars psychologiquement et physiquement en état. Et les championnats se terminaient 15 jours avant. Certains physiquement
c'est vrai.
Même peut-être psychologiquement auraient lâché. Donc il fallait quand même les maintenir.
Mais France-Angleterre, ça a toujours été une belle affiche. Les Anglais qui sont en train de se refaire une cerise, ils ont mis un nouveau capitaine, Harry Kane. Ils ont fait un très très beau match contre l'Écosse, là, 2-2. C'était un beau match. Contre l'Écosse.
C'est à l'image de leur niveau. Excuse-moi, mais l'Angleterre qui fait 2-2 contre l'Écosse, l'Angleterre qui se fait sortir par
le Oui, non, mais c'est un beau match.
Depuis 50 ans, il y a 50 ans, l'Angleterre gagne la Coupe du Monde et depuis, le football anglais n'a plus rien. On va parler de rugby après. Je suis désolé, mais quand on voit le niveau du championnat anglais et le niveau de la sélection, moi, ça me fait étrangement penser au niveau du top 14 et au niveau de la sélection française.
Oui, c'est vrai, il y a un rapport.
Alors donc l'équipe de France, on l'a dit pour l'instant, est deuxième, 13 points, mais donc un goal average de plus 6, derrière la Suède donc à 13 points et un goal average de plus 8. Troisième, le Pays-Bas qui du coup se replace, 10 points, goal average de plus 7. Quatrième, Bulgarie, 9 points. Cinquième, Biélorussie, 5 points. Et sixième, Luxembourg, 1 point. On l'a dit, donc on retrouvera cette équipe de France mardi pour ce match contre l'Angleterre. Et ensuite, ça sera donc on rentrera dans les choses sérieuses le 31 août prochain. Alors Pierre, Arnaud, on va conclure une saison quand même avec des coups de cœur et des coups de gueule. Une belle saison de foot quand même.
On s'est régalé. Alors contrairement aux saisons précédentes où le PSG était bien trop fort et a écrasé la concurrence, donc où on avait un championnat pas intéressant, cette année, on a vu un championnat au niveau. Donc forcément, le gros coup de cœur de la saison, c'est l'AS Monaco dans son ensemble. Ouais. Un entraîneur extraordinaire, un collectif qui va avec, une révélation. Mbappé, on en a suffisamment parlé, mais ça part des arrières, de latéraux, jusqu'en attaque. Dans cette équipe, je l'ai toujours dit dans cette émission, pour moi, il y a un petit point faible, c'est la défense centrale et surtout le gardien, qui, selon moi, n'a pas le niveau, par exemple, d'un demi-finaliste de Ligue des Champions. En vrai, c'est un avis qu'on partage ou qu'on partage pas, mais je vois Pierre me faire les gros yeux. Mais pour moi, Subasic n'a pas le niveau. Après, offensivement, c'est sûr que Lemar, Bernardo Silva, Mbappé, Falcao, c'est une attaque de feu. Et aujourd'hui, n'importe quelle équipe voudrait s'attacher ces joueurs-là. On pense à Bernardo Silva qui était transféré à Manchester City pour 70 millions il y a quelques jours. Après, forcément, à deuxième position, on est obligé de parler du PSG. C'est une saison...
mitigée, dirons-nous. Pas mauvaise,
en demi-teinte,
pas exceptionnelle, mitigé, mais mitigée. Voilà. Quand on gagne quand même une Coupe de France, une Coupe de Ligue, ça reste mitigé quand même.
Ouais, mais pour le PSG, c'est 4 défaites dans les 19 premières journées. Et voilà.
Alors, justement, on en parlait la semaine dernière dans Tribune Foot, il y a un paradoxe quand même. C'est que Paris finit à 8 points de Monaco, ce qui est quand même loin. Mais Paris termine avec un nombre de points où il est supérieur à certaines années où ils ont été champions de France. Donc, voilà. Donc ça prouve que le championnat a été quand même très relevé cette année.
Ça prouve que Monaco a été une très grosse équipe.
Ouais, et championnat très relevé cette année.
Oui. Voilà. Même, moi je voudrais juste rebondir là-dessus. Moi, je trouve que même dans la course à la descente, le système de barrage, c'est un super système.
C'est pour donner un peu de, voilà,
C'est un super système. Je laisse Arnaud finir. Ouais.
Non mais après, pour revenir sur le PSG, le problème aujourd'hui, c'est que le Paris Saint-Germain va résumer la saison à un match. C'est prendre 6 buts au Camp Nou.
C'est vrai que
c'est une humiliation.
C'est court, hein.
Et le problème, c'est qu'il y a eu un match aller. Au match aller, le PSG a donné une leçon de football au Barça. Et pour moi, c'est ce qui montre que le PSG est une grande équipe. Et après, il faudra passer à autre chose. Il faudra oublier ce match. Il faudra l'effacer de la mémoire.
Ça va être long,
mais c'est un match à oublier.
Ça a laissé des traces, je crois.
Toutes les grandes équipes ont eu des désillusions.
Celle-là, quand même, 0% de stats. Ouf!
Je sais bien, les stats sont faites.
C'était jamais arrivé, quoi.
C'était jamais presque arrivé.
Après, je pense que, de nombreux observateurs pensent que Unai Emery mérite d'être maintenu à la tête du PSG. Unai Emery a le niveau. Pour moi, il a le niveau plus que Laurent Blanc. Après, c'est un avis personnel, mais j'espère qu'il sera là la saison prochaine. Ça a l'air bien parti pour, et on peut construire une équipe autour d'Unai Emery. Après, on a vu cette saison et le match au Camp Nou était l'exemple parfait. Unai Emery donne des donne des merde.
Oui.
Donne des consignes de jeu. Ouais. Thiago Silva, capitaine, démonte le plan de jeu et on se retrouve avec une humiliation à la fin et des joueurs qui respectent pas les consignes. Donc il y a des choses à changer au Paris Saint-Germain. Il y a des stars à recadrer. Verratti aurait annoncé hier vouloir quitter le PSG. Bah, un joueur comme ça qui n'a plus la tête au PSG doit partir. Le PSG doit faire de l'argent dessus et pouvoir recruter avec cet argent. Donc ensuite, un autre coup de cœur pour moi, c'est l'entraîneur Lucien Favre de Nice, qui a fait une extraordinaire
saison
un peu à l'image de Leonardo Jardim. Donc deux coups de cœur, ça va faire plaisir à Pierre, entre autres. Le retour sur la scène des Girondins et surtout de l'Olympique de Marseille. Bordeaux et Marseille, deux clubs mythiques du championnat de France qui reviennent au premier plan et ça promet pour la saison prochaine et surtout pour Marseille qui devrait recruter. Et maintenant on va passer aux grosses déceptions de la saison. Le jeu de Rennes et de Saint-Etienne, faible, c'est pas au niveau du championnat de France. Ils arrivent à finir dans la première partie de tableau mais c'est très faible. Un autre coup de gueule, et ça nous promet encore des après-midi bien ennuyantes devant la Ligue 1, c'est le retour de Troyes en Ligue 1. Alors ça, c'est une équipe qui nous a souvent ennuyé, donc
le
ça
promet
pas
croisé.
Du beau football. Oui, l'ascenseur, voilà, c'est l'ascenseur.
Chassé croisé, ouais, ascenseur.
Et enfin, là, c'est peut-être un petit peu le cœur qui parle, mais c'est le Sporting Club de Bastia. On a plus parlé des événements en tribune que des événements sur le terrain. Donc le problème, c'est que comme ce qu'ont vécu les supporters parisiens il y a 7 ans maintenant, c'est une bande de 25 abrutis qui pénalise le stade entier. À la fin, à cause de ça, on se retrouve avec un club qui descend en Ligue 2 parce que admettons que cet après-midi un petit peu sombre face à Lyon, ça pouvait très bien arriver une victoire. Et avec une victoire, le Sporting Club de Bastia se maintenait. Donc aujourd'hui, le Bastia va être en Ligue 2. À mon avis, ça va durer 3-4 ans et le club va mettre du temps à remonter. Et qu'on le veuille ou non, et qu'on l'aime ou pas, comme de nombreux supporters en France, hein, comme de nombreux Français d'ailleurs, le Bastia est un club mythique du championnat et c'est un club qui va nous manquer d'un côté.
Voilà, puis on fera un petit coup quand même aux Français champions d'Europe, hein. On en avait parlé la semaine dernière dans Tribune Foot, hein. Zidane deux fois entraîneur champion d'Europe, et puis on va pas oublier que Benzema, Varane sont encore champions d'Europe avec une Ligue des Champions, mais on n'oubliera pas aussi en Europa League, hein, Pogba et puis Martial, qui sont aussi devenus, qui ont gagné une Coupe d'Europe à travers donc eh bien l'Europa League, et puis Ibra, qui ont enfin fini par gagner une Coupe d'Europe. Voilà, si on passe au ballon ovale. Il y avait un petit bilan foot, il y a un petit bilan rugby. La semaine dernière, donc, j'allais dire, enfin, Clermont s'est imposé. C'est la deuxième victoire pour Clermont sur 15 finales perdues. Hein. Donc, finale correcte, victoire correcte, 22-7 de l'équipe qui a mieux maîtrisé sa finale.
Oui, bon, ça a été un beau match, mais il faut...
Enfin, une belle première mi-temps, la deuxième un peu moins bonne quand même, hein.
Il faut regarder quand même les choses importantes et pas le spectacle uniquement.
Oui.
J'ai essayé de mettre quelques notes et j'ai écrit ceci. Petite nature, s'abstenir. Pourquoi ? Il y a quand même 5 commotions cérébrales dans un match.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés. Voilà.
Alors, le problème, c'est que le rugby est en danger et les joueurs sont vraiment en danger. Il va y avoir un mort un de ces jours.
Ouf.
Alors, oui, écoutez bien. J'ai pris les statistiques de la Ligue et des éducateurs de rugby. Alors, c'est Tech 15, hein, ça s'appelle le...
Oui.
Bon, qui tire la sonnette d'alarme. Selon une étude réalisée conjointement avec la Ligue et publiée dans son magazine de mai 2017, il consacre un dossier qui met en lumière l'augmentation spectaculaire du nombre de blessures des rugbymen professionnel. Basé sur des données recueillies sur 3 saisons, de 2012 à 2015, ces données sont en effet éloquentes, le total passant de 603 blessures recensées en 2012-2013 à 981 3 ans plus tard. Sans surprise, la majorité de ces blessures se produisent sur la zone plaqueur-plaqué. La majorité des blessures touchant la zone tête-cou et les membres inférieurs, où les médecins ont constaté une forte hausse des traumatismes au niveau du genou. Alors, il faut tirer la sonnette d'alarme. Hein. Le spectacle rugby devient un spectacle...
Oui, mais ça devient plus physique, c'est comme dans tous les sports.
Non, voilà.
Non, mais Christian,
non.
Il, Christian a raison, moi je sais que je suis un peu le rugby parce que j'en ai fait longtemps.
Ouais.
Et que ça fait quand même quelques années que les joueurs sont de plus en plus lourds, de plus en plus forts.
Ils se rendent de plus en plus rapides
et ils se défoncent.
Ils sont passés à 2-3 entraînements par jour maintenant contre un.
Et puis, il y a une vingtaine d'années.
Écoute, c'est bien.
Alors, je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre le match joué lors de la finale du top 14 entre Toulon et Clermont et le match de l'équipe de France contre les Springboks hier?
Dites-nous tout.
Bah vas-y, Christian, vas-y, dis.
Bah, c'est simple, l'enjeu tue le jeu.
Ouais.
À partir du moment. Oui. Hier, c'était un match amical. Il n'y a eu aucun blessé. Pourtant,
Springboks. Pourtant, les Springboks, équipe.
S'il
y a bien une équipe qui dure physiquement, c'est elle.
Mais il suffit qu'il y ait un enjeu très important pour la survie d'un club. Quand on voit où en est le Stade Toulousain cette année, Exang, il ne s'est même pas qualifié. Les enjeux sont tellement importants que la violence est banalisée. Je dis bien, la violence est banalisée.
Qu'il faut les protéger, les joueurs.
Voilà, quand on voit un joueur comme Botia ou Tuisova, qui, au lieu d'éviter le joueur ou taper par-dessus, lui rentre dedans. Rentre dedans, ce n'est plus de l'évitement, c'est de l'affrontement direct. Ça, on ne le voyait pas.
C'est
au
peut-être
rugby,
aussi le rugby. Il y a des défenses renforcées. Maintenant, c'est plus dur. Donc voilà quoi.
Pour dire que l'enjeu tue le jeu. À partir du moment où il y a une inflation des salaires, où il y a une course à l'armement, où les règlements sont faits pour qu'il y ait des finales de plus en plus attractives, le rugby perd complètement tout son sens. Moi, quand je jouais il y a quelques années, on savait très bien.
Mon pauvre monsieur.
Voilà, j'ai joué quand même à National 1. On savait très bien que c'était les avants qui gagnaient le match. On savait très bien qu'il fallait être.
Il n'y avait pas de coaching devant. Il n'y avait pas le coaching en plus à l'époque.
Derrière, on avait des miettes. Ils nous envoyaient le ballon car ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais aujourd'hui, c'est devenu systématique. Ce n'est plus un jeu d'évitement, de contournement, c'est un jeu d'affrontement. Et on peut se poser des questions, malgré tout le spectacle, l'engouement des télévisions, etc. Le rugby est en danger.
Alors, question, victoire, on l'a dit, contre Toulon, 22-16 pour Clermont, qui avait été battu en finale de la H-Cup 28-17. C'est quand même l'équipe la plus régulière sur la saison qui s'impose. Souvent, il y a des équipes qui sortaient des barrages qui ont gagné ces dernières années. Là, c'est pas le cas. Clermont, cette année, s'impose. C'est logique, c'est mérité.
Oui. Si on raisonne comme ça.
On l'a dit, deux victoires en 15 finales perdues avec les Coupes d'Europe.
On raisonne comme ça, c'est La Rochelle la meilleure équipe.
Qui
n'est même pas en finale.
Mais c'est fréquent dans le rugby.
Alors, il faut se poser aussi les vraies questions. Pourquoi Toulon a perdu? Si Afbeni avait été là, est-ce qu'ils auraient perdu?
On ne saura jamais.
Non, mais il faut voir que les calendriers aussi sont organisés avec tous ces étrangers qui partent à droite, à gauche dans leur sélection. Les clubs, même en payant, ils n'ont plus la maîtrise des éléments qui le salarient.
Alors
Afbeni aurait été là, on peut penser, vu qu'il a 80% de réussite dans ses tirs au but, qu'il aurait passé les deux coups francs qu'a manqué Bello.
Les deux pénalités.
Avec ces 6 points de plus,
c'était la prolongation. Très brièvement, donc on va quand même rappeler que le Stade français a gagné la challenge européenne 25-17. L'équipe de France, donc on en parlait pour le foot, pour le rugby, elle était en reconstruction. Hier, elle a été assez nettement battue par l'Afrique du Sud, 37-14.
L'équipe de France est en reconstruction, comme on le dit. Mais ça fait un moment qu'elle est en reconstruction.
Il y a eu un tout petit mieux. Il y a eu un léger mieux après le tournoi, encore loin des meilleures nations.
Mais on est quand même loin des meilleures
nations. Hier soir, le résultat, il ne veut pas dire grand-chose parce qu'il manquait beaucoup de joueurs.
Oui, alors justement, dans les tournées, est-ce que ces tournées sont nécessaires? Je sais qu'elles sont conclues 2 ans, 3 ans avant, parce que finalement, y a souvent des joueurs démotivés qui arrivent dans ces tournées, les meilleurs ne sont pas là, on essaye des jeunes, donc... C'est difficile parfois de se...
C'est surtout un intérêt financier pour les fédérations.
De se sentir concerné.
Mais le problème aussi, il y a un problème de formation aussi. C'est comme en tennis. Mmh. Pourquoi on va chercher des joueurs, les Fidji, les Samoans, Afrique du Sud, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus performants que les joueurs français. Donc,
on pénalise l'équipe de France.
Voilà, on pénalise l'équipe de France avec beaucoup de joueurs étrangers. Et à certains postes, nous sommes quand même démunis. Hein. Il faut voir que l'équipe de France a du mal, par exemple, à l'ouverture, pilier droit. Bon, heureusement qu'il y a Slimani qui est un bon joueur.
Qui rend encore du service.
Mais l'inflation des joueurs étrangers pénalise l'équipe de France. Ça fait que on est en difficulté. Et puis il y a un problème de formation.
Vite, question, faut qu'on envoie la pub.
Voilà. Et puis il y a un problème de formation, c'est que les joueurs ne sont pas assez conditionnés dans des systèmes de jeu précis. Improviser, c'est bien, mais au bout d'un moment, l'improvisation, ça devient de l'à peu près.
Allez, très bien. On a été très bavards. Fin des lettres, la pub, la musique, et ensuite, on part sur les cours de Roland Garros. On y va.
Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77. À Rambouillet, 14 rue Châle, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Châle, à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Nous apprendrons par cœur la démesure. votre région avec RVE.
Voilà, cette émission, vous allez la retrouver en podcast très rapidement, hein, probablement dans le courant de l'après-midi. On a parlé donc de foot, on a parlé de rugby. On va parler maintenant de Roland-Garros. Alors avant même de revenir un peu sur cette quinzaine, bah on va vous proposer les interviews qu'on a donc ramenées, hein, puisque on a eu la chance de vivre une journée ou deux dans les coulisses de Roland-Garros. Alors on y a déjà rencontré notre consoeur de France Télévisions, Mathilde Lazou.
Oui.
Hein, et je lui ai demandé quel était son regard sur le tennis, elle qui est plus habituée aux courses cyclistes et au rugby. On y va. Alors, on a retrouvé Mathilde Lazou dans les travées de Roland-Garros. Mathilde, bonjour. Pourquoi Roland-Garros ?
Bonjour. Bah oui, très contente d'être à Roland-Garros. Le travail m'a proposé de venir, alors forcément, je n'avais pas dit non.
Alors, vous, la passionnée de vélo plutôt, quel regard vous portez sur cette manifestation sportive et en général sur le monde du tennis ?
Je vais pas vous mentir en disant que j'avais quand même des a priori avant d'arriver à Roland-Garros. Et finalement, c'est un bel événement populaire, sportif, qui regroupe beaucoup de catégories d'âge et catégories sociales. Et sympa, on a du beau jeu et des animations, il y a tout pour passer une bonne journée.
Et puis on voit un peu comme sur le Tour de France, hein, des gens qui ont le sourire, des gens qui sont joyeux, hein, même dans l'encadrement.
Oui, exactement, et puis en plus il fait très beau, donc ça ne gâche rien à la fête, on va dire. Et ouais, c'est un moment de partage et ça permet vraiment de voir les stars qu'on a l'habitude de voir à la télé, de les voir de près.
Alors France Télévisions, plus que jamais naturellement sur Roland-Garros, hein, il y a le Paris-Dakar, il y a le tournoi destination, il y a le Tour de France, et je crois que le partenariat a été une nouvelle fois renouvelé.
Oui, c'est ça, c'est avec France Télévisions, on accompagne Roland-Garros et les événements sportifs qui font aussi un peu la fierté de notre pays. C'est vrai que ce soit le Tour ou Roland-Garros, le but de France Télévisions, c'est de promouvoir au mieux notre sport et nos événements qui font notre fierté.
Mmh. Alors vous, bon, vous travaillez sur les réseaux sociaux, c'est ça, hein?
C'est ça, pour cette quinzaine, je suis sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre sur Instagram, Snapchat, et on essaie de faire vivre un peu les coulisses de l'événement, et c'est ça qui est intéressant.
Bon, beaucoup de travail, c'est des journées bien remplies, hein, je suppose.
Bon, on va dire que ouais, c'est des journées d'entre 10 et 11 heures de travail par jour, pendant 15 jours, mais quand on est passionné, on ne voit pas les heures passer, et on n'est pas là pour compter nos heures non plus.
Les tennismen et tenniswomen sont des sportifs et sportives très, très disponibles.
Oui, ça va, oui. De toute façon, c'est comme dans tous les sports de haut niveau. Maintenant, c'est contrôlé avec une communication et donc ça a du bon et du mauvais, mais oui, ils sont disponibles et on va pas se plaindre, on va dire.
Bon, par rapport au Tour de France, bon, Roland-Garros dure une semaine de moins et puis on reste dans un même endroit, on reste dans un même lieu confiné. Hein.
C'est ça, donc c'est pas trop mal parce que franchement, c'est un peu du luxe de pouvoir aller à Roland-Garros en métro, de pouvoir aller à son travail sur un événement comme celui-là par les transports en commun et puis au moins ça nous permet de bien connaître les lieux et de prendre nos marques plus facilement.
Bon, Mathilde, attention, hein, on passera cette interview le jour de la finale. Qui va gagner Roland-Garros, chez les hommes comme chez les femmes?
Oh là, bonne question. Alors chez les hommes, j'aimerais bien Raphaël Nadal, oui, pour l'histoire. Après,
pour la décima. Hein.
Exactement, après j'espère que Lucas Pouille, notre français, va bien figurer. Côté française, Kristina Mladenovic, forcément, elle peut viser le dernier carré. Et après c'est tellement ouvert le circuit féminin, là, qu'il y en a entre 10 et 15 joueuses qui peuvent gagner ce match. Donc on verra bien pour côté féminin, je laisse un point d'interrogation.
Merci Mathilde.
Merci à vous.
Ouais, bon, on verra si elle s'est trompée, mais enfin, c'est vrai que la décima pour Nadal, c'est largement envisageable. Tiens, on a rencontré Christian Jean-Louis Mazard, le tout nouveau président du tennis club de Rambouillet. C'était la journée des présents. Donc, Jean-Louis nous a raconté comment il avait passé sa journée sur Roland-Garros. Allez, avec Jean-Louis Mazard, qu'on vient de rencontrer dans les coulisses, dans les travées de Roland-Garros. Jean-Louis, c'est un rendez-vous habituel pour vous.
Ah oui, ça fait déjà pas mal d'années que je viens. Vu que j'ai commencé, j'avais 10 ans, oui, dans les 58. Ça fait 48 ans que je fais mon petit tour sur Roland-Garros.
Beaucoup d'évolutions, je suppose, hein, depuis cette période-là. Hein.
Ouais, technologique, hein, beaucoup d'écrans dans tous les sens. Par contre, beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qu'avant.
Ouais. Comment vous l'expliquez? C'est d'abord la popularité pour le tennis, ou alors une certaine curiosité aussi, peut-être?
Ben, je ne sais pas, il faudra interviewer effectivement les gens, mais moi je pense que le tennis a toujours la cote, et il est toujours en expansion.
Mmh. Ça a aussi beaucoup changé, hein, autour des matchs, des compétitions, on fait maintenant certaines animations, il y a tout quoi.
Oui,
c'est un véritable village.
Oui, complètement, il y a plein de magasins, il y avait un jongleur tout à l'heure là, qui faisait des trucs sympas, ils ont fait un peu l'extra sportif, on fait pareil en club, on fait du tennis, on fait des choses à côté aussi pour varier.
Alors il parle que vous êtes présent maintenant du tennis.
Oui, voilà, je suis président, au moins pour cette année, après on verra l'année prochaine, parce que bon, chaque année on met en place les différentes fonctions du club. Et pour cette année, oui, voilà.
Alors c'est vrai que cette journée, c'était aussi la journée dédiée au président, ce qui explique qu'on vous ait vu aujourd'hui sur Roland Garros.
Mais voilà, c'est le lundi des présidents, donc c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je faisais plutôt la journée des enseignants. Voilà, ça change, mais bon, il n'y a pas un gros changement en soi, sauf que je retrouve un tas d'amis présidents, parce que j'en croise beaucoup avec le master notamment, qui est toujours en cours pour nous cette année.
Et au niveau donc des matchs que vous avez vus aujourd'hui, comment vous jugez cette compétition, là, ces 15 jours qui arrivent, Nadal va faire la passe de 10?
Je viens de voir jouer Nadal, justement contre le père. Donc ouais, ça a l'air assez costaud, ouais. Je pense que c'est fort. Après, je n'ai pas trop vu comment jouer les autres actuellement, mais il y a Djoko quand même de l'autre côté. Quand on les retrouvera comme demi-finale, pas en finale cette année, je crois, si je ne me trompe pas.
Et côté français, on peut avoir une bonne surprise?
Ah bah ça serait idéal, mais bien sûr, on attend ça depuis longtemps. Je pense que le nouveau président qui est venu nous faire un petit speech là, sur le Suzanne Lenglen, ouais, ça va être très satisfait d'un Français vainqueur de Roland, parce que depuis Yannick Noah, bah, ça remonte hein, déjà.
Bon, merci Jean-Louis, bonne suite dans les travées de Roland Garros.
Ouais, merci à vous aussi, au revoir. Voilà.
Ouais, merci donc à Jean-Louis Mazard qui nous a dit que tiens, les finales sud-divines de Master cette année chez les jeunes auront lieu du côté de Guyancourt. Hein. On va rappeler que c'était la journée des présents et c'était donc le lundi 29 mai qu'on a rencontré Jean-Louis Mazard. Tiens, on s'est interrogé aussi sur les métiers liés à Roland-Garros. On a donc rencontré Aurélie, elle est chauffeur, donc on va l'écouter, nous raconter donc son quotidien sur cette quinzaine. Alors, je suis avec Aurélie, qui est chauffeur-chauffeuse, c'est comme ça qu'on dit ?
Chauffeur, je pense.
Oui, d'accord, ok. Chauffeur, alors chauffeur des joueurs, donc de cette quinzaine de Roland-Garros, très brièvement, ça s'articule comment ?
Alors, en fait, chauffeur, ça s'articule, on transporte les joueurs et les joueuses, donc on les transporte du stade Roland-Garros vers les hôtels, des hôtels vers les centres d'entraînement, des centres d'entraînement vers Roland-Garros, etc. Voilà, donc on fait ça toute la journée.
Alors, on vous donne un planning chaque matin avec l'adresse du joueur ou de la joueuse à récupérer?
Alors, c'est pas un planning chaque matin, c'est plutôt au fur et à mesure. D'accord. On nous donne des courses en fonction de notre disponibilité. Voilà, dès qu'on est libre, on a un talkie-walkie et on a en fait des dispatchers qui nous disent, voilà, bah, tu es libre à tel endroit, tu vas chercher telle personne à telle adresse et tu l'amènes à tel endroit. Voilà, comme ça, toute la journée, ça s'enchaîne.
Alors, ça oblige aussi à très bien connaître le coin.
Alors, effectivement, il vaut mieux connaître Paris, même si on a des GPS dans la voiture, mais c'est vrai que parfois ça va très vite, donc on n'a pas forcément le temps de programmer. De toute façon, on fait un repérage avant des hôtels et des centres d'entraînement. Voilà, donc effectivement, oui, il vaut mieux connaître Paris et ses différents itinéraires.
Alors, en général, ça se passe bien, vous êtes à l'heure, et puis le champion ou la championne transportée sont sympas.
Alors, on est à l'heure parce qu'on a quand même une certaine marge. Voilà, après, ça tient compte aussi de la circulation, donc on arrive en général à l'heure. Après, les joueurs sont assez sympas en général. Il y en a qui discutent plus ou moins. Ils ne sont pas forcément seuls. Ils sont soit avec leur famille ou leur coach. Mais oui, en général, on n'a pas trop de soucis avec les joueurs. C'est quand même une population assez sympathique.
Oui, et puis ça oblige aussi à bien connaître les langues étrangères. Hein.
Alors, effectivement, il vaut mieux parler anglais. Oui. Et puis, parfois, espagnol, ça peut être bien. Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de joueurs qui parlent espagnol sur Roland-Garros. Mmh. Mais au moins l'anglais, oui, c'est sûr, c'est utile.
Bon, vous savez, vous faites des envieuses et envieux. Fatalement, quand vous dites ça, on doit vous dire, mais tu connais. Donc les joueurs, les joueuses, on vous laisse parfois certains numéros, non ?
Ah non, malheureusement, parfois on a des petites remarques, un petit peu, voilà, mais pas, on ne laisse pas de numéros. Bon, ils sont quand même là pour travailler, ils sont dans leur match, dans leur quinzaine. Voilà, après, oui, c'est sûr qu'on côtoie du beau monde, donc c'est assez agréable.
Il n'y a jamais eu d'anecdote savoureuse ou particulière ? Non,
je crois pas. Après, j'en ai croisé pas mal. J'ai croisé Nadal, j'ai croisé Murray. Il n'y a que Djokovic, je ne l'ai pas encore croisé. J'espère le croiser cette année. On n'est qu'en début de tournoi, donc j'espère bien le croiser d'ici deux semaines.
C'est la passion du tennis qui vous a emmené vers ce job. Et comment fait-on ? Faut postuler ? Faut envoyer un CV ? Faut être un peu parrainé ? Faut être un peu pistonné ?
Alors, effectivement, c'est la passion du tennis puisque je joue depuis que je suis toute petite, un petit peu moins maintenant. Mais effectivement, il faut postuler. Événementiel qui s'occupe de nous recruter, donc on passe des entretiens, on passe un test de conduite, voilà, un test un petit peu d'anglais, etc., de connaissance de Paris, et ensuite voilà, on est recruté. Alors pas forcément sur la population des joueurs au début, mais ensuite on peut être sur la population des joueurs, et puis si ça marche, chaque année on nous rappelle et ça se passe bien.
En tout cas, c'est une belle aventure humaine, hein. On le vit comme ça, on doit faire quand même pas mal d'heures, hein. On doit être trois semaines très très dense, très intense. Il y a un manque après, le lendemain?
Alors j'avoue que le premier lundi juste après, ça fait bizarre. Le premier week-end aussi, alors on est content de se reposer, mais on se dit, c'est vrai que ça manque un petit peu, oui, effectivement. ses joueurs. L'ambiance, hein, que l'ambiance entre nous est très sympathique. Mais voilà, après, on a vécu trois belles semaines et puis l'année passe très vite. Donc l'année prochaine arrive très vite. Hein.
D'accord, merci en tout cas.
Merci à vous.
Attention. Allez, avec Aurélie, donc, eh bien, maintenant Thomas, qui lui, eh bien, est placeur pour la première fois sur Roland-Garros. Lui aussi nous parle de son quotidien. Allez, je suis avec Thomas qui est passeur sur ce Roland-Garros. Thomas, combien de Roland-Garros derrière vous ?
Alors, c'est le premier.
D'accord, c'est
voilà.
Le premier.
Donc, tout nouveau. Donc, alors, je suis placeur.
D'accord. Passé le tennis, je suppose ?
Exactement. Exactement. Moi, j'adore le tennis, donc c'est vraiment très sympa d'être là, hein, de voir ce Philippe Châtrier sous toutes ses couleurs, on va dire.
Alors, donc, vous êtes porté volontaire
oui, pour, tout à fait.
Alors, ça se passe comment ?
Alors, en fait, on candidate tout simplement sur Internet à l'agence. En fait, il y a plusieurs agences. Hein. La plus grosse ici, c'est Maola. Maola, en fait, qui fait la plupart des 1200 intervenants sur le stade, enfin pas sur le stade, mais sur le tournoi en général. Et donc, on candidate et puis on est sélectionné ou pas pour la mission. Et puis, après, on remplit notre mission pendant les deux semaines.
Quels sont les critères sur lesquels on se base pour que vous soyez justement sélectionné ?
Alors, moi, je pourrais pas vous dire exactement parce que je suis pas recruteur. Je pense qu'il faut avant tout être un hôte. C'est-à-dire confirmé, hein, qui ait fait ses preuves sur d'autres missions, qui ait de l'expérience surtout, je pense que c'est ce qui prime. Et puis de toute façon, après, je pense que c'est le comportement durant la quinzaine qui fait qu'on est repris d'une année sur l'autre ou pas.
Alors, ces premiers jours de Roland-Garros, ça se passe comment pour vous C'est un peu l'image que vous aviez de ce rôle de placeur ?
Alors oui, tout à fait. Je pense que parfois, on peut pas faire notre mission en entier. C'est-à-dire quand on a 25 personnes qui attendent derrière, on peut pas placer tout le monde parce qu'on est quand même censé accompagner le spectateur jusqu'à sa place. Après, je pense que oui, jusque-là, ça correspond bien à mes attentes.
Qui vous place en fonction des travées ? Qui choisit les travées ?
Alors en fait, c'est le chef hôte. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque équipe, vous avez des chefs hôtes pour des équipes à l'extérieur, donc en bas des escaliers, puis à l'intérieur du court. Chacun est responsable d'une équipe de personnes et va gérer toute une équipe.
Bon, alors ce sont des journées longues, bien remplies quand même. Hein.
Ce sont des journées longues. Aujourd'hui, c'est 11h, donc faut être endurant. Mais après, bon, quand on a l'occasion de voir des matchs comme ouais. Ceux qu'on a pu voir toute la journée, ça vaut le coup.
Oui, parce qu'on a quand même le temps de regarder les matchs, faut le dire quand même.
Ah oui, on a quand même le temps. Hein, et puis on s'en cache pas, hein. Je veux dire, ça fait partie aussi de la mission, c'est-à-dire que entre les trois jeux du début et l'interruption, etc., bien sûr que bon, on va pas tourner de l'œil juste parce qu'on n'a pas le droit de le faire, quoi.
Et puis le public est sympa, les gens sont là pour faire la fête, tous très,
ouais.
Très agréables.
Ouais, ouais, alors plus sympa en fin de match en général, les gens se détendent, les gens sont contents, il y a une bonne ambiance, l'intensité monte, et puis oui, en général, les gens sont venus là pour se détendre.
Et puis il faut gérer la météo aussi, quand il fait très chaud comme aujourd'hui.
C'est ça, c'est la météo, c'est pas forcément évident. C'est vrai que l'an dernier, bon, moi je le suivais en tant que téléspectateur et c'était assez difficile. Là, cette année, je pense qu'on va avoir plus de chance. En tout cas, bon, la chaleur, par contre, ça peut être un problème aussi, mais bon, on s'en sort.
Bon, pour finir, un petit chouchou, une petite chouchou sur cette quinzaine, sur le plan sportif.
Alors, le problème, c'est que moi, mon chouchou, c'est Federer et il est pas là.
Ah, oui.
Donc, il va falloir que j'en trouve un nouveau. Je suis encore en train de chercher. Voilà.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Hein. Au revoir. Voilà, sympa Thomas, hein, comme Aurélie, ben c'est bien, c'est tous ces métiers de Roland-Garros, Olivier, parce que Roland-Garros, c'est ça aussi. Hein.
C'est ça aussi.
Il y a la compétition et tout ce qui se trame
autour. Tout à fait, ouais, on croit pas quand on voit de notre écran qu'il y a autant de métiers autour du tournoi, mais il en faut des gens comme ça, c'est grâce à ça que le tournoi peut encore exister et existera encore pour de longues dates.
Alors, on va faire le bilan de cette quinzaine, hein, comme très souvent. Arnaud, que se passe-t-il pour les Français ? Pourquoi les Français n'arrivent plus à aller régulièrement en deuxième semaine de Roland-Garros ? Cette année, il n'y a que les deux féminines qui sont allées en quart, mais pourquoi nos hommes n'arrivent plus ?
Il y a un mot qu'on entend dans toutes les bouches aujourd'hui, c'est mental. Mmh. Nos joueurs français ont du talent, ont eu du talent. On a toujours parlé d'une génération des quatre mousquetaires. Tout à l'heure, je vais expliquer pour moi qu'il n'y en a que trois, parce que Gilles Simon n'est pas un bon joueur de tennis, n'est pas au niveau des autres, et est un bon top 40, top 30, mais ça n'ira jamais plus haut, et ça fait très longtemps qu'on ne se fait plus aucun espoir. Mais on a des joueurs qui ont du talent, mais qui n'ont rien dans la tête. Donc, on en parlait hors antenne tout à l'heure, il y a un joueur qu'on peut mettre en parallèle avec ces mecs-là, c'est Stan Wawrinka. Il y a 5 ans, Stan Wawrinka, c'était du Monfils, c'était du Gasquet, du Tsonga, Et cet homme-là a travaillé. Cet homme-là a travaillé son mental, a toujours eu du mental. En plus d'avoir du talent, mais par exemple, a beaucoup moins de talent qu'un Monfils ou un Gasquet. Et aujourd'hui, Stan Wawrinka a 3 grands chelems à son actif et une finale de grands chelems qu'il va disputer cet après-midi. Donc voilà, on a des joueurs français qui sont très faibles, et on l'a vu à Roland-Garros. Monfils sort lamentablement au mental contre Wawrinka, où il perd les deux premiers sets 7-5, 7-6, et derrière, il lâche le match comme à son habitude. Gasquet, à l'image du tennis français aussi, bah, Gasquet, c'est la cuisse, et au bout de 7, on abandonne, c'est terminé. Et Tsonga, on joue le 91e mondial, on se fait sortir lamentablement 4-7, je crois. Donc voilà, c'est le tennis français, c'est une blessure. C'est un mec qui lâche le match et un troisième qui se fait sortir au premier tour contre un petit joueur. Mmh. Donc voilà, après, ça se retrouve aussi à travers les statistiques. J'ai retracé tous les tournois du Grand Chelem depuis 2005. Donc à savoir que Gasquet a commencé en 2002 et donc ses premiers son éclosion en 2005. Monfils, une éclosion en 2006. Et Tsonga, une éclosion en 2007. Alors par exemple, depuis leur début de carrière, Richard Gasquet, c'est 6 forfaits dans les tournois du Grand Chelem. Tsonga, c'est 6 également, plus 4 abandons en tournoi. Et Monfils détient la palme, c'est 9 forfaits. Alors, il y a eu très peu de bonnes saisons. On voit à travers les statistiques, par exemple, c'est si on prend depuis Roland-Garros 2005, ces mecs-là ont joué 50 tournois du Grand Chelem. J'ai reclassé les gros matchs ou les matchs, entre guillemets, contre les têtes de série, donc les matchs qui passionnent un peu plus le public. Gasquet, sur 50 matchs joués, c'est 17 victoires, donc ça nous fait un ratio de 34%. Monfils, c'est 17 sur 40, ça nous fait un ratio de 42%. Et Tsonga, c'est un petit peu mieux, c'est 30 victoires dans 58 gros matchs, ce qui fait 52%. Et en retraçant toutes ces statistiques, on voit que Tsonga est quand même meilleur que les deux autres. Parce que si on prend les contre-performances à l'image de la défaite de Tsonga contre Renzo Olivo, Gasquet, depuis 2005, il y a 9 contre-performances contre des joueurs sortis de nulle part. Monfils, encore une fois, c'est la palme, c'est 12. Et Tsonga, c'est seulement 5. Et il y a une autre stat qui est très intéressante, c'est pour des mecs qui veulent gagner un grand chelem, il faut battre des gros joueurs. Donc j'ai retracé, par exemple, à mon goût, les 5 plus gros joueurs, et je pense que là-dessus on ne pourra pas me contredire aujourd'hui, sur les 5 plus gros joueurs actuels, qui sont Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka et Murray. Richard Gasquet a joué 16 matchs contre ces 5-là, sur 16 matchs et une victoire. C'était Wawrinka à Wimbledon 2015. Monfils, encore pire que tout, également 16 matchs et une victoire. C'était Andy Murray en 2006 à Roland-Garros, quand Murray était au-delà de la 100e place mondiale. Et toujours Tsonga, qui est un poil au-dessus des autres. Il a joué 25 matchs contre ces mecs-là. Et c'est 7 victoires, donc 2 contre Federer. Une contre Nadal, qui lui avait permis d'accéder à la seule finale de Grand Chelem masculine pour ces 3 mecs-là. C'était à l'Open d'Australie 2008. 2 contre Djokovic, 1 contre Murray et 1 contre Wawrinka.
Bravo Arnaud, parce que c'est assez édifiant quand même, hein, comme stat. Allez, la page de pub, et ensuite on revient tout de suite pour le final de cette quinzaine de Roland-Garros.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris, entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Ah oui, on a beaucoup d'actu, je vous le dis ce matin, on est très bavard. Christian, une réaction sur ce que vient de dire Arnaud. C'est le mental pour les joueurs français.
Oui, alors le problème, c'est que tout le monde fait le constat, hein, de la descente aux enfers du tennis français. Hein. Même le président, sur un article, Bernard Guglielmi, n'a pas mâché ses mots pour commenter le bilan des Français à Roland-Garros. Oui. Bon, voilà le
Il n'a pas de main morte, hein, nouveau président de la Fédé.
Il faut voir que... on pourrait faire donner une explication en creux. Je m'explique.
Il nous reste
pourquoi Novak Djokovic a perdu ? Alors, de nombreux spécialistes disent parce qu'il a perdu la haine et le combat. Voilà. À partir du moment où le joueur n'est pas un combattant, n'est pas une caisse physique, parce qu'il faut voir.
C'est un joint, ce que. Voilà, ouais.
Eh bien, on ne peut pas tenir. Des matchs de cette intensité et de ce, niveau.
Le tennis est un sport qui se joue au mental. Ce qui se passe pour Djokovic, c'est que Djokovic a gagné Roland Garros l'année dernière. Il a fait le grand chelem, c'est-à-dire pour gagner les 4 grands chelems en carrière. Et bah Djokovic aujourd'hui a tout gagné. Djokovic l'année dernière a eu des histoires conjugales juste avant l'US Open au mois d'août. Djokovic, Pierre rigole, mais Djokovic est tombé en dépression et aujourd'hui Djokovic ne veut plus jouer au tennis et va certainement se retirer pour quelques temps pour réussir à se remettre dans le sport, parce qu'aujourd'hui Djokovic est un mec qui n'a plus la tête au tennis et ça se voit sur le terrain. Mmh. Et pour rebondir sur les propos concernant Bernard Guidicelli, notre cher nouveau président de la FFT devrait faire un truc. Aujourd'hui on a un tennis qui est un sport de riches. Par exemple un jeune des cités ou je ne sais quoi qui peut faire du football ne peut pas faire du tennis. C'est triste de voir, contrairement à d'autres pays, qu'aujourd'hui le tennis n'est pas un sport qui est à disposition de tous. Les jeunes ne peuvent pas le pratiquer. Faut être riche pour faire le sport, et ça limite le nombre de talents et le nombre de mecs qui peuvent se révéler, parce qu'on voit les jeunes joueurs français qui se révèlent tous à 8-9 ans. Ils font les tournois des jeunes As, si je dis pas de bêtises.
À terme, ouais.
Voilà, et donc c'est ouais. Des mecs qui se révèlent jeunes. Et aujourd'hui, on n'a pas de génération qui arrive, et c'est aussi à cause de choses comme ça.
Oui. Alors, moi, je voudrais amener un bémol. J'ai fait partie de la Fédération Française de Tennis pour la formation. Et j'ai été dans les écoles, puisque j'étais conseiller pédagogique d'éducation physique, et on a été les inventeurs du mini-tennis, avec Jean-Claude Marchand et Jean-Paul Lotte. Nous avons développé en France, dans toutes les écoles, des classes de mini-tennis. Gratuites, bien sûr, parce que c'était dans le cadre de l'école. Et avec des relations avec les clubs, ces enfants-là, ou les meilleurs, il fallait pas se cacher la face, hein. Les meilleurs allaient dans les clubs dans des conditions très favorables. Donc, il y a eu des efforts de fait dans cette démocratisation du tennis. Hein.
Ouais, très bien. Mais alors, vite, d'abord, la victoire hier de Ostapenko, donc en 3-7, 4-6, 6-4, 6-3. Et puis, comment vous voyez la finale de cet après-midi ?
Alors, moi, je vais retenir deux choses là. Les Françaises ont tenu leur partie quand même.
Oui, quand même en quart de finale. Hein, ouais.
Et en particulier Dodin. Qui se rapproche le plus d'Ostapenko. Mais je voudrais signaler. Non,
il reste 2 minutes, question. Hein.
Alors.
Donc c'est Nadal ou pas cet après-midi ?
Alors, ça sera Nadal, ouais. Mais il faut quand même signaler au passage la performance de Jeber Hans.
D'accord.
Vous la connaissez ?
La Tunisienne.
La première Tunisienne qui était au troisième tour de Roland Garros. Mmh.
Arnaud, c'est Nadal cet après-midi ? Pour la décima, et puis Ostapenko hier, moins de 20 ans.
Alors Ostapenko,
c'est... Il y a 20 ans, je veux dire.
Sincèrement, je suis tombé amoureux. C'est incroyable de voir une joueuse comme ça. Arnaud est amoureux. Ostapenko est une joueuse de 20 ans depuis 3 jours. Elle a gagné un grand chelem et ça promet une carrière. Et moi, ça me faisait un peu penser à Martina Hingis. Et pour la finale de cet après-midi, on va voir du tennis. On va voir un gros match. Nadal qui peut aller chercher la décima. Il a le meilleur des adversaires pour une finale de grand chelem et ça promet un combat des chefs, et j'espère que Nadal va aller chercher la décima.
En 5-7 le match. Olivier, ça va être pareil ?
Nadal ? Nadal devrait normalement aller chercher son 10e titre. Maintenant, attention à Wawrinka qui est...
Il avait déjà joué.
Nadal en 4-7 et Nadal avantagé par les conditions de jeu.
Ah oui.
Puisque il fait chaud, les balles seront
rapides,
auront de la pression et les terrains seront secs.
Nadal ?
Moi, je rejoins Olivier. J'espère que ça va être une très belle finale. Tout le monde voit Nadal, mais attention à Wawrinka, il a beaucoup de mental. Et j'espère que ça va être un très beau match et qu'il va faire le même match que contre Murray, parce qu'il a fait des coups de génie. Et moi qui adore le tennis, je me suis régalé.
Eh bien, merci, messieurs. On a été très, très, très bavard, mais c'est vrai que l'actu était particulièrement abondante. N'oubliez pas quand même d'aller voter. Hein. Voilà, pour ces élections législatives. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci à Victor. Et rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même chaîne, comme on dit. 10h-11h. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. RVE.